Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 23e. Commencement des 100 jours. Retour de l'île d'Elbe. 2. Torpeur de la légitimité. Article de Benjamin Constant. Ordre du jour du maréchal Soult. Séance royale. Pétition de l'école de droit à la Chambre des députés. 3. Projet de défense de Paris. 4. Fuite du roi. Je pars avec Madame de Chateaubriand. Embarras de la route, le duc d'Orléans et le prince de Condé. Tournai, Bruxelles. Souvenir. Le duc de Richelieu. Le roi arrêté à Gand m'appelle auprès de lui. 5. Les 100 jours à Gand. Le roi et son conseil. Je deviens ministre de l'Intérieur par intérim. Monsieur de Lally Tollendal. Madame la Duchesse de Duras, le Maréchal Victor, l'Abbé Louis et le Comte Beugnot, l'Abbé de Montesquieu, dîner du Poisson Blanc, convives. 6. Suite des 100 jours à Gand. Moniteur de Gand. Mon rapport au roi. Effet de ce rapport à Paris. Falsification. 7. Suite des 100 jours à Gand. Le béguinage. Comment j'étais reçu. Grand dîner. Voyage de Madame de Chateaubriand à Ostende, Anvers. Un bègue. Mort d'une jeune Anglaise. 8. Suite des 100 jours à Gand. Mouvement inaccoutumé de Gand. Le duc de Wellington. Monsieur. Louis XVIII. 9. Suite des 100 jours à Gand. Souvenir de l'histoire à Gand. Madame la Duchesse d'Angoulême arrive à Gand. Monsieur de Sèze, Madame la Duchesse de Lévis. 10. Suite des 100 jours à Gand. Pavillon Marsan à Gand. Monsieur Gaillard, conseiller à la Cour royale. Visite secrète de Madame la Baronne de Vitrolles. Billet de la main de Monsieur Fouché. 11. Affaires à Vienne. Négociation de Monsieur de Saint-Léon, envoyé de Fouché. Proposition relative à Monsieur le Duc d'Orléans. Monsieur de Talleyrand. Mécontentement d'Alexandre contre Louis XVIII. Divers prétendants. Rapport de la Besnardière. Proposition inattendue d'Alexandre au Congrès. Lord Clancarty l'a fait échouer. Monsieur de Talleyrand se retourne, sa dépêche à Louis XVIII. Déclaration de l'Alliance, tronquée dans le journal officiel de Francfort. Monsieur de Talleyrand veut que le roi rentre en France par les provinces du Sud-Est. Divers marchés du prince de Bénévent à Vienne. Il m'écrit à Gand. Sa lettre. 12. Les 100 jours à Paris. Effet du passage de la légitimité en France. Étonnement de Bonaparte. Il est obligé de capituler avec les idées qu'il avait cru étouffer. Son nouveau système. 3 énormes joueurs restés. Chimère des libéraux. Clubs et fédérés. Escamotage de la République, l'acte additionnel. Chambre des représentants convoquée. Inutile chant de mai. 13. Suite des 100 jours à Paris. Soucis et amertume de Bonaparte. 14. Résolution à Vienne. Mouvement à Paris. 15. Ce que nous faisions à Gand. Monsieur de Blacas. 16. Bataille de Waterloo. 17. Confusion à Gand. Quelle fut la bataille de Waterloo? 18. Retour de l'empereur. Réapparition de Lafayette. Nouvelle abdication de Bonaparte. Séances orageuses à la Chambre des Pairs. Présage menaçant pour la seconde restauration. 19. Départ de Gand. Arrivée à Mons. Je manque ma première occasion de fortune dans ma carrière politique. Monsieur de Talleyrand à Mons. Scène avec le roi. Je m'intéresse bêtement à Monsieur de Talleyrand. 20. De Mons à Gonesse. Je m'oppose à Monsieur le comte Beugnot à la nomination de Fouché comme ministre. Mes raisons. Le duc de Wellington l'emporte. Arnouville, Saint-Denis, dernière conversation avec le roi. Chapitre 1. Commencement des 100 jours. Retour de l'île d'Elbe. Tout à coup, le télégraphe annonça aux braves et aux incrédules le débarquement de l'homme. Monsieur court à Lyon avec le duc d'Orléans et le maréchal Macdonald. Il en revient aussitôt. Le maréchal Soult, dénoncé à la Chambre des députés, cède sa place le 2 mars au duc de Feltre. Bonaparte rencontra devant lui, pour ministre de la guerre de Louis XVIII, en 1815, le général qui avait été son dernier ministre de la guerre en 1814. La hardiesse de l'entreprise était inouïe. Sous le point de vue politique, on pourrait regarder cette entreprise comme le crime irrémissible et la faute capitale de Napoléon. Il savait que les princes encore réunis en congrès, que l'Europe encore sous les armes, ne souffrirait pas son rétablissement. Son jugement devait l'avertir qu'un succès, s'il l'obtenait, ne pouvait être que d'un jour. Il immolait, à sa passion de reparaître sur la scène, le repos d'un peuple qui lui avait prodigué son sang et ses trésors. Il exposait au démembrement la patrie dont il tenait tout ce qu'il avait été dans le passé et tout ce qu'il sera dans l'avenir. Il y eut dans cette conception fantastique un égoïsme féroce, un manque effroyable de reconnaissance et de générosité envers la France. Tout cela est vrai selon la raison pratique, pour un homme à entrailles plutôt qu'à cervelle. Mais pour les êtres de la nature de Napoléon, une raison d'une autre sorte existe. Ces créatures, à haut renom, ont une allure à part. Les comètes décrivent des courbes qui échappent au calcul. Elles ne sont liées à rien, ne paraissent bonnes à rien. S'il se trouve un globe sur leur passage, elles le brisent et rentrent dans les abîmes du ciel. Leurs lois ne sont connues que de Dieu. Les individus extraordinaires sont les monuments de l'intelligence humaine. Ils n'en sont pas la règle. Bonaparte fut donc moins déterminé à son entreprise par les faux rapports de ses amis que par la nécessité de son génie. Il se croisa en vertu de la foi qu'il avait en lui. Ce n'est pas tout de naître pour un grand homme. Il faut mourir. L'île d'Elbe était-elle une fin pour Napoléon? Pouvait-il accepter la souveraineté d'une tour, comme Tibère à Caprée, d'un carré de légumes, comme Dioclétien à Salone? S'il eût attendu plus tard, aurait-il eu plus de chances de succès? Alors qu'on eût été moins ému de son souvenir, que ses vieux soldats eussent quitté l'armée, que les nouvelles positions sociales eussent été prises? Eh bien, il fit un coup de tête contre le monde. À son début, il dut croire ne s'être pas trompé sur le prestige de sa puissance. Une nuit, entre le 25 et le 26 février, au sortir d'un bal dont la princesse Borghèse faisait les honneurs, il s'évade avec la victoire, longtemps sa complice et sa camarade. Il franchit une mer couverte de nos flottes, rencontre deux frégates, un vaisseau de 74 et le brick de guerre, le Zéphyr, qui l'accoste et l'interroge. Il répond lui-même aux questions du capitaine. La mer et les flots le saluent et il poursuit sa course. Le Tillac de l'Inconstant, son petit navire, lui sert de promenoir et de cabinet. Il dicte au milieu des vents et fait copier sur cette table agitée trois proclamations à l'armée et à la France. Quelques felouques, chargés de ses compagnons d'aventure, portent autour de sa barque amirale pavillon blanc semé d'étoiles. Le 1er mars, à 3 heures du matin, il aborde la côte de France entre Cannes et Antibes, dans le golfe Juan. Il descend, parcourt la rive, cueille des violettes et bivouaque dans une plantation d'oliviers. La population stupéfaite se retire. Il manque Antibes et se jette dans les montagnes de Grasse, traverse Cernon, Barème, Digne et Gap. Assisteront, 20 hommes le peuvent arrêter, mais il ne trouve personne. Il s'avance sans obstacle parmi ses habitants qui, quelques mois auparavant, avaient voulu l'égorger. Dans le vide qui se forme autour de son ombre gigantesque, s'il entre quelques soldats, ils sont invinciblement entraînés par l'attraction de ses aigles. Ses ennemis fascinés le cherchent et ne le voient pas. Il se cache dans sa gloire, comme le lion du Sahara se cache dans les rayons du soleil, pour se dérober aux regards des chasseurs éblouis. Enveloppé dans une trombe ardente, les fantômes sanglants d'Arcole, de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland, d'Eylau, de la Moscova, de Lutzen, de Bautzen, lui font un cortège avec 1 million de morts. Du sein de cette colonne de feu et de nuées sortent à l'entrée des villes quelques coups de trompette mêlés aux signaux du labarum tricolore, et les portes des villes tombent. Lorsque Napoléon passa le Niémen, à la tête de 400 000 fantassins et de 100 000 chevaux, pour faire sauter le palais des Tsars à Moscou, il fut moins étonnant que lorsque, rompant son banc, jetant ses fers au visage des rois, il vint seul, de Cannes à Paris, couché paisiblement aux Tuileries. Chapitre 2. Torpeur de la légitimité. Article de Benjamin Constant. Ordre du jour du maréchal Soult. Séance royale. Pétition de l'école de droit à la Chambre des députés. Auprès du prodige de l'invasion d'un seul homme, il en faut placer un autre qui fut le contre-coup du premier. La légitimité tomba en défaillance. La pâmoison du cœur de l'État gagna les membres et rendit la France immobile. Pendant 20 jours, Bonaparte marche par étapes, ses aigles volent de clocher en clocher, et sur une route de 200 lieues, le gouvernement maître de tout, disposant de l'argent et des bras, ne trouve ni le temps ni le moyen de couper un pont, d'abattre un arbre pour retarder au moins 1 heure la marche d'un homme à qui les populations ne s'opposaient pas, mais qu'elles ne suivaient pas non plus. Cette torpeur du gouvernement semblait d'autant plus déplorable que l'opinion publique, à Paris, était fort animée. Elle se fut prêtée à tout, malgré la défection du maréchal Ney. Benjamin Constant écrivait dans les Gazettes. Après avoir versé tous les fléaux sur notre patrie, il a quitté le sol de France. Qui n'eût pensé qu'il a quitté pour toujours? Tout à coup, il se présente et promet encore aux Français la liberté, la victoire, la paix. Auteur de la constitution la plus tyrannique qui ait régi la France, il parle aujourd'hui de liberté. Mais c'est lui qui, durant 14 ans, a miné et détruit la liberté. Il n'avait pas l'excuse des souvenirs, l'habitude du pouvoir. Il n'était pas né sous la pourpre. Ce sont ses concitoyens qu'il a asservis, ses égaux qu'il a enchaînés. Il n'avait pas hérité de la puissance. Il a voulu et médité la tyrannie. Quelle liberté peut-il promettre ? Ne sommes-nous pas 1000 fois plus libres que sous son empire ? Il promet la victoire et 3 fois il a laissé ses troupes en Égypte, en Espagne et en Russie, livrant ses compagnons d'armes à la triple agonie du froid, de la misère et du désespoir. Il a attiré sur la France l'humiliation d'être envahi. Il a perdu les conquêtes que nous avions faites avant lui. Il promet la paix, et son nom seul est un signal de guerre. Le peuple assez malheureux pour le servir redeviendrait l'objet de la haine européenne. Son triomphe serait le commencement d'un combat à mort contre le monde civilisé. Il n'a donc rien à réclamer ni à offrir. Qui pourrait-il convaincre ? Ou qui pourrait-il séduire ? La guerre intestine, la guerre extérieure, voilà les présents qu'elle nous apporte. L'ordre du jour du maréchal Soult, daté du 8 mars 1815, répète à peu près les idées de Benjamin Constant avec une effusion de loyauté. Soldats, cet homme qui naguère abdiqua aux yeux de l'Europe un pouvoir usurpé, dont il avait fait un si fatal usage, est descendu sur le sol français qu'il ne devait plus revoir. Que veut-il ? La guerre civile. Que cherche-t-il ? Des traîtres. Où les trouvera-t-il ? Serait-ce parmi ces soldats qu'il a trompés et sacrifiés tant de fois en égarant leur bravoure ? Serait-ce au sein de ces familles que son nom seul remplit encore d'effroi ? Bonaparte nous méprise assez pour croire que nous pourrons abandonner un souverain légitime et bien-aimé pour partager le sort d'un homme qui n'est plus qu'un aventurier. Il le croit, l'insensé, et son dernier acte de démence achève de le faire connaître. Soldats, l'armée française est la plus brave armée de l'Europe. Elle sera aussi la plus fidèle. Rallions-nous autour de la bannière d'Hélice, à la voix de ce père du peuple, de ce digne héritier des vertus du grand Henri. Il vous a tracé lui-même les devoirs que vous avez à remplir. Il met à votre tête ce prince, modèle des chevaliers français, dont l'heureux retour dans notre patrie a déjà chassé l'usurpateur, et qui, aujourd'hui, va détruire par sa présence son seul et dernier espoir. Louis XVIII se présenta le 16 mars à la Chambre des députés. Il s'agissait du destin de la France et du monde. Quand Sa Majesté entra, les députés et les spectateurs dans les tribunes se découvrirent et se levèrent. Une acclamation ébranla les murs de la salle. Louis XVIII monte lentement à son trône. Les princes, les maréchaux et les capitaines des gardes se rangent aux deux côtés du roi. Les cris cessent, tout se tait. Dans cet intervalle de silence, on croyait entendre les pas lointains de Napoléon. Sa Majesté, assise, regarde un moment l'assemblée et prononce ce discours d'une voix ferme. Messieurs, dans ce moment de crise où l'ennemi public a pénétré dans une partie de mon royaume et qu'il menace la liberté de tout le reste, je viens au milieu de vous resserrer encore les liens qui, vous unissant avec moi, font la force de l'État. Je viens, en m'adressant à vous, exposer à toute la France mes sentiments et mes vœux. J'ai revu ma patrie. Je l'ai réconciliée avec les puissances étrangères qui seront, n'en doutez pas, fidèles aux traités qui nous ont rendus à la paix. J'ai travaillé au bonheur de mon peuple. J'ai recueilli, je recueille tous les jours les marques les plus touchantes de son amour. Pourrais-je, à 60 ans, mieux terminer ma carrière qu'en mourant pour sa défense? Je ne crains donc rien pour moi, mais je crains pour la France. Celui qui vient allumer parmi nous les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère. Il vient remettre notre patrie sous son joug de fer. Il vient enfin détruire cette charte constitutionnelle que je vous ai donnée, cette charte, mon plus beau titre aux yeux de la postérité, cette charte que tous les Français chérissent et que je jure ici de maintenir. Rallions-nous donc autour d'elle. » Le roi parlait encore quand un nuage répandit l'obscurité dans la salle. Les yeux se tournèrent vers la voûte pour chercher la cause de cette soudaine nuit. Lorsque le monarque législateur cessa de parler, les cris de « Vive le roi !» recommencèrent au milieu des larmes. L'assemblée, dit avec vérité le moniteur, électrisée par les sublimes paroles du roi, était debout, les mains étendues vers le trône. On n'entendait que ces mots « Vive le roi !» « Mourir pour le roi à la vie et à la mort !» Répétez avec un transport que tous les cœurs français partageront. En effet, le spectacle était pathétique. Un vieux roi infirme qui, pour prix du massacre de sa famille et de 23 années d'exil, avait apporté à la France la paix, la liberté, l'oubli de tous les outrages et de tous les malheurs. Ce patriarche des souverains venant déclarer aux députés de la nation qu'à son âge, après avoir revu sa patrie, il ne pouvait mieux terminer sa carrière qu'en mourant pour la défense de son peuple. Les princes jurèrent fidélité à la charte. Ces serments tardifs furent clos par celui du prince de Condé et par l'adhésion du père du duc d'Enghien. Cette héroïque race, prête à s'éteindre, cette race d'épées patriciennes, cherchant derrière la liberté un bouclier contre une épée plébéienne plus jeune, plus longue et plus cruelle, offrait, en raison d'une multitude de souvenirs, quelque chose d'extrêmement triste. Le discours de Louis XVIII, connu au dehors, excita des transports inexprimables. Paris était tout royaliste. Et demeura-t-elle pendant les 100 jours. Les femmes, particulièrement, étaient bourbonistes. La jeunesse adore aujourd'hui le souvenir de Bonaparte, parce qu'elle est humiliée du rôle que le gouvernement actuel fait jouer à la France en Europe. La jeunesse, en 1814, saluait la Restauration, parce qu'elle abattait le despotisme et relevait la liberté. Dans les rangs des volontaires royaux, on comptait M. Odilon Barrot, grand nombre d'élèves de l'école de médecine et l'école de droit tout entière. Celle-ci adressa la pétition suivante, le 13 mars, à la Chambre des députés. « Messieurs, nous nous offrons au roi et à la patrie. L'école de droit tout entière demande à marcher. Nous n'abandonnerons ni notre souverain, ni notre constitution. Fidèles à l'honneur français, nous vous demandons des armes. Le sentiment d'amour que nous portons à Louis XVIII vous répond de la constance de notre dévouement. Nous ne voulons plus de fer, nous voulons la liberté. Nous l'avons, on vient nous l'arracher. Nous la défendrons jusqu'à la mort. Vive le roi! Vive la Constitution !» Dans ce langage énergique, naturel et sincère, on sent la générosité de la jeunesse et l'amour de la liberté. Ceux qui viennent nous dire aujourd'hui que la Restauration fut reçue avec dégoût et douleur par la France sont ou des ambitieux qui jouent une partie, ou des hommes naissants qui n'ont point connu l'oppression de Bonaparte, ou de vieux menteurs révolutionnaires impérialisés qui, après avoir applaudi comme les autres au retour des Bourbons, insultent maintenant, selon leur coutume, ce qui est tombé et retournent à leur instinct de meurtre, de police et de servitude. Chapitre 3. Projet de défense de Paris. Le discours du roi m'avait rempli d'espoir. Des conférences se tenaient chez le président de la Chambre des députés, M. Lainé. J'y rencontrais M. de Lafayette. Je ne l'avais jamais vu que de loin, à une autre époque, sous l'Assemblée constituante. Les propositions étaient diverses. La plupart faibles, comme il advient dans le péril. Les uns voulaient que le roi quittât Paris et se retirât au Havre. Les autres parlaient de le transporter dans la Vendée. Ceux-ci barbouillaient des phrases sans conclusion. Ceux-là disaient qu'il fallait attendre et voir venir. Ce qui venait était pourtant fort visible. J'exprimais une opinion différente, chose singulière. Monsieur de Lafayette l'appuya, et avec chaleur. Entre parenthèses, Monsieur de Lafayette confirme, dans des mémoires précieux pour les faits que l'on a publiés depuis sa mort, la rencontre singulière de son opinion et de la mienne au retour de Bonaparte. Monsieur de Lafayette aimait sincèrement l'honneur et la liberté. Note de Paris, 1840, note de l'auteur. Monsieur Lainé et le maréchal Marmont étaient aussi de mon avis. Je disais donc que le roi tienne parole, qu'il reste dans sa capitale. La garde nationale est pour nous. Assurons-nous de Vincennes. Nous avons les armes et l'argent. Avec l'argent, nous aurons la faiblesse et la cupidité. Si le roi quitte Paris, Paris laissera entrer Bonaparte. Bonaparte, maître de Paris, est maître de la France. L'armée n'est pas passée tout entière à l'ennemi. Plusieurs régiments, beaucoup de généraux et d'officiers, n'ont point encore trahi leur serment. Demeurons fermes, ils resteront fidèles. Dispersons la famille royale, ne gardons que le roi. Que monsieur aille au Havre, le duc de Berry à Lille, le duc de Bourbon dans la Vendée, le duc d'Orléans à Metz. Madame la duchesse et monsieur le duc d'Angoulême sont déjà dans le Midi. Nos divers points de résistance empêcheront Bonaparte de concentrer ses forces. Barricadons-nous dans Paris. Déjà les gardes nationales des départements voisins viennent à notre secours. Au milieu de ce mouvement, notre vieux monarque, sous la protection du testament de Louis XVI, la charte à la main, restera tranquille, assis sur son trône, aux Tuileries. Le corps diplomatique se rangera autour de lui. Les deux chambres se rassembleront dans les deux pavillons du château. La maison du roi campera sur le carrousel et dans le jardin des Tuileries. Nous borderons de canons les quais et la terrasse de l'eau. Que Bonaparte nous attaque dans cette position. Qu'il emporte une à une nos barricades. Qu'il bombarde Paris s'il le veut et s'il a des mortiers. Qu'il se rende odieux à la population entière. Et nous verrons le résultat de son entreprise. Résistons seulement 3 jours, et la victoire est à nous. Le roi, se défendant dans son château, causera un enthousiasme universel. Enfin, s'il doit mourir, qu'il meure digne de son rang. Que le dernier exploit de Napoléon soit l'égorgement d'un vieillard. Louis XVIII, en sacrifiant sa vie, gagnera la seule bataille qu'il aura livrée. Il la gagnera au profit de la liberté du genre humain. Ainsi je parlais. On n'est jamais reçu à dire que tout est perdu quand on n'a rien tenté. Qu'y aurait-il eu de plus beau qu'un vieux fils de Saint-Louis renversant avec des Français, en quelques moments, un homme que tous les rois conjurés de l'Europe avaient mis tant d'années à abattre? Cette résolution, en apparence désespérée, était au fond très raisonnable et n'offrait pas le moindre danger. Je resterai toujours convaincu que Bonaparte, trouvant Paris ennemi et le roi présent, n'aurait pas essayé de les forcer. Sans artillerie, sans vivres, sans argent, il n'avait avec lui que des troupes réunies au hasard, encore flottantes, étonnées de leur brusque changement de cocarde, de leurs serments prononcés à la volée sur les chemins. Elles se seraient promptement divisées. Quelques heures de retard perdait Napoléon. Il suffisait d'avoir un peu de cœur. On pouvait même déjà compter sur une partie de l'armée. Les deux régiments suisses gardaient leur foi. Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr ne fit-il pas reprendre la cocarde blanche à la garnison d'Orléans 2 jours après l'entrée de Bonaparte dans Paris? De Marseille à Bordeaux, tout reconnut l'autorité du roi pendant le mois de mars entier. À Bordeaux, les troupes hésitaient. Elles seraient restées à Madame la Duchesse d'Angoulême si l'on avait appris que le roi était aux Tuileries et que Paris se défendait. Les villes de province eussent imité Paris. Le 10e de ligne se battit très bien sous le duc d'Angoulême. Masséna se montrait cauteleux et incertain. À Lille, la garnison répondit à la vive proclamation du maréchal Mortier. Si toutes ces preuves d'une fidélité possible eurent lieu en dépit d'une fuite, que n'auraient-elles point été dans le cas d'une résistance? Mon plan adopté, les étrangers n'auraient point de nouveau ravagé la France. Nos princes ne seraient point revenus avec les armées ennemies. La légitimité eût été sauvée par elle-même. Une seule chose eût été à craindre après le succès, la trop grande confiance de la royauté dans ses forces, et par conséquent des entreprises sur les droits de la nation. Pourquoi suis-je revenu à une époque où j'étais si mal placé? Pourquoi ai-je été royaliste contre mon instinct, dans un temps où une misérable race de cour ne pouvait ni m'entendre ni me comprendre? Pourquoi ai-je été jeté dans cette troupe de médiocrité qui me prenait pour un écervelé quand je parlais courage, pour un révolutionnaire quand je parlais liberté? Il s'agissait bien de défense. Le roi n'avait aucune frayeur, et mon plan lui plaisait assez par une certaine grandeur Louis XIVe. Mais d'autres figures étaient allongées. On emballait les diamants de la couronne, autrefois acquis des derniers particuliers des souverains. En laissant 33 millions écus au trésor et 42 millions en effet. Ces 75 millions étaient le fruit de l'impôt. Que ne le rendait-on au peuple plutôt que de le laisser à la tyrannie? Une double procession montait et descendait les escaliers du pavillon de Flore. On s'enquérait de ce qu'on avait à faire. Point de réponse. On s'adressait au capitaine des gardes. On interrogeait les chapelains, les chantres, les aumôniers. Rien. De vaines causeries, de vains projets, de vains débits de nouvelles. J'ai vu des jeunes gens pleurer de fureur en demandant inutilement des ordres et des armes. J'ai vu des femmes se trouver mal de colère et de mépris. Parvenir au roi, impossible. L'étiquette fermait la porte. La grande mesure décrétée contre Bonaparte fut un ordre de courir su. Louis XVIII, sans jambes, courir su le conquérant qui enjambait la terre. Cette formule des anciennes lois, renouvelée à cette occasion, suffit pour montrer la portée d'esprit des hommes d'État de cette époque. Courir su en 1815. Courir su. Et su qui? Su un loup? Su un chef de brigand? Su un seigneur félon? Non. Su Napoléon, qui avait couru su les rois, les avait saisis et marqués pour jamais à l'épaule de son haine ineffaçable. De cette ordonnance, considérée de plus près, sortait une vérité politique que personne ne voyait. La race légitime, étrangère à la nation pendant 23 années, était restée au jour et à la place où la révolution l'avait prise, tandis que la nation avait marché dans le temps et l'espace. De là, impossibilité de s'entendre et de se rejoindre. Religion, idées, intérêts, langage, terre et ciel, tout était différent pour le peuple et pour le roi, parce qu'ils n'étaient plus au même point de la route, parce qu'ils étaient séparés par un quart de siècle, équivalent à des siècles. Mais si l'ordre de courir su paraît étrange par la conservation du vieil idiome de la loi, Bonaparte eut-il d'abord l'intention d'agir mieux tout en employant un nouveau langage. Des papiers de M. d'Hauterive, inventoriés par M. Artaud, prouvent qu'on eut beaucoup de peine à empêcher Napoléon de faire fusiller le duc d'Angoulême, malgré la pièce officielle du Moniteur, pièce de parade qui nous reste. Il trouvait mauvais que ce prince se fût défendu. Et pourtant, le fugitif de l'île d'Elbe, en quittant Fontainebleau, avait recommandé aux soldats d'être fidèles au monarque que la France s'était choisi. Napoléon, au moment où il parlait de nouveau d'immoler un fils de France, était-il autre chose que le double usurpateur de la nouvelle royauté des Bourbons et des libertés populaires? Quoi? Le sang du duc d'Enghien ne lui avait point suffi? La famille de Bonaparte avait été respectée. La reine Hortense avait obtenu de Louis XVIII le titre de duchesse de Saint-Leu. Caroline, qui régnait encore à Naples, n'eut son royaume vendu par M. de Talleyrand que pendant le congrès de Vienne. Cette époque où la franchise manque à tous serre le cœur. Chacun jetait en avant une profession de foi, comme une passerelle pour traverser la difficulté du jour. Quitte à changer de direction, la difficulté franchie. La jeunesse seule était sincère, parce qu'elle touchait à son berceau. Bonaparte déclare solennellement qu'il renonce à la couronne. Il part et revient au bout de 9 mois. Benjamin Constant imprime son énergique protestation contre le tyran. Et il change en 24 heures. On verra plus tard dans un autre livre de ses mémoires qui lui inspira ce noble mouvement auquel la mobilité de sa nature ne lui permit pas de rester fidèle. Le maréchal Soult anime les troupes contre leur ancien capitaine. Quelques jours après, il rit aux éclats de sa proclamation dans le cabinet de Napoléon aux Tuileries et devient major général de l'armée à Waterloo. Le maréchal Ney baise les mains du roi, jure de lui ramener Bonaparte enfermé dans une cage de fer. Et il livre à celui-ci tous les corps qu'il commande. Hélas, et le roi de France. Il déclare qu'à 60 ans, il ne peut mieux terminer sa carrière qu'en mourant pour la défense de son peuple. Et il fuit à Gand. À cette impossibilité de vérité dans les sentiments, à ce désaccord entre les paroles et les actions, on se sent saisi de dégoût pour l'espèce humaine. Louis XVIII, au 20 mars, prétendait mourir au milieu de la France. S'il eût tenu parole, la légitimité pouvait encore durer un siècle. La nature même semblait avoir ôté au vieux roi la faculté de se retirer, en l'enchaînant d'infirmités salutaires. Mais les destinées futures de la race humaine eussent été entravées par l'accomplissement de la résolution de l'auteur de la charte. Bonaparte a couru au secours de l'avenir. Ce Christ de la mauvaise puissance prit par la main le nouveau paralytique et lui dit « Levez-vous et emportez votre lit. Surge, tole lectum tuum. » Chapitre 4. Fuite du roi, je pars avec madame de Chateaubriand, embarras de la route, le duc d'Orléans et le prince de Condé. Tournai, Bruxelles, souvenir. Le duc de Richelieu. Le roi arrêté à Gand m'appelle auprès de lui. Il était évident que l'on méditait une escampative. Entre parenthèses, du verbe escamper, prendre la fuite. Dans la crainte d'être retenu, on n'avertissait pas même ceux qui, comme moi, auraient été fusillés une heure après l'entrée de Napoléon à Paris. Je rencontrai le duc de Richelieu dans les Champs-Élysées. « On nous trompe, me dit-il, je monte la garde ici, car je ne compte pas attendre tout seul l'empereur aux Tuileries. » Madame de Chateaubriand avait envoyé le soir du 19 un domestique au carrousel, avec ordre de ne revenir que lorsqu'il aurait la certitude de la fuite du roi. À minuit, le domestique n'étant pas rentré, je m'allais coucher. Je venais de me mettre au lit quand M. Clausel de Coussergues entra. Il nous apprit que Sa Majesté était partie et qu'elle se dirigeait sur l'île. Il m'apportait cette nouvelle de la part du chancelier qui, me sachant en danger, violait pour moi le secret et m'envoyait 12 000 francs à reprendre sur mes appointements de ministre de Suède. Je m'obstinais à rester, ne voulant quitter Paris que quand je serais physiquement sûr du déménagement royal. Le domestique envoyé à la découverte revint. Il avait vu défiler les voitures de la cour. Madame de Chateaubriand me poussa dans sa voiture le 20 mars à 4 heures du matin. J'étais dans un tel accès de rage que je ne savais où j'allais ni ce que je faisais. Nous sortîmes par la barrière Saint-Martin. À l'aube, je vis des corbeaux descendre paisiblement des ormes du grand chemin, où ils avaient passé la nuit pour prendre au champ leur premier repas, sans s'embarrasser de Louis XVIII et de Napoléon. Ils n'étaient pas, eux, obligés de quitter leur patrie, et grâce à leurs ailes, ils se moquaient de la mauvaise route où j'étais cahoté. Vieux amis de Combourg, nous nous ressemblions davantage quand, jadis, au lever du jour, nous déjeunions des murs de la Ronce dans nos halliers de la Bretagne. La chaussée était défoncée, le temps pluvieux, Madame de Chateaubriand malade. Elle regardait à tout moment par la lucarne du fond de la voiture si nous n'étions pas poursuivis. Nous couchâmes à Amiens, où naquit Ducange, ensuite à Arras, patrie de Robespierre. Là, je fus reconnu. Ayant envoyé demander des chevaux, le 22 au matin, le maître de poste les dit retenus pour un général qui portait à Lille la nouvelle de l'entrée triomphante de l'empereur et roi à Paris. Madame de Chateaubriand mourait de peur, non pour elle, mais pour moi. Je courus à la poste et, avec de l'argent, je levai la difficulté. Arrivés sous les remparts de l'île le 23, à 2 heures du matin, nous trouvâmes les portes fermées. Ordre était de ne les ouvrir à qui que ce soit. On ne put ou on ne voulut nous dire si le roi était entré dans la ville. J'engageai le postillon, pour quelques louis à gagner, en dehors des glacis, l'autre côté de la place, et à nous conduire à Tournai. J'avais, en 1792, fait à pied, pendant la nuit, ce même chemin avec mon frère. Arrivé à Tournai, j'appris que Louis XVIII était certainement entré dans l'île avec le maréchal Mortier et qu'il comptait s'y défendre. Je dépêchai un courrier à M. de Blacas, le priant de m'envoyer une permission pour être reçu dans la place. Mon courrier revint avec une permission du commandant, mais sans un mot de M. de Blacas. Laissant Madame de Chateaubriand à Tournai, je remontais en voiture pour me rendre à Lille lorsque le prince de Condé arriva. Nous sûmes par lui que le roi était parti et que le maréchal Mortier l'avait fait accompagner jusqu'à la frontière. D'après cette explication, il restait prouvé que Louis XVIII n'était plus à Lille lorsque ma lettre y parvint. Le duc d'Orléans suivit de près le prince de Condé. Mécontent en apparence, il était aise, au fond, de se trouver hors de la bagarre. L'ambiguïté de sa déclaration et de sa conduite portait l'empreinte de son caractère. Quant au vieux prince de Condé, l'émigration était son dieu lard. Lui n'avait pas peur de M. de Bonaparte. Il se battait si l'on voulait, il s'en allait si l'on voulait. Les choses étaient un peu brouillées dans sa cervelle. Il ne savait pas trop s'il s'arrêterait à Rocroi pour y livrer bataille ou s'il irait dîner au Grand Cerf. Il leva ses tentes quelques heures avant nous, me chargeant de recommander le café de l'auberge à ceux de sa maison qu'il avait laissé derrière lui. Il ignorait que j'avais donné ma démission à la mort de son petit-fils. Il n'était pas bien sûr d'avoir eu un petit-fils. Il sentait seulement dans son nom un certain accroissement de gloire qui pouvait bien tenir à quelque Condé qu'il ne se rappelait plus. Vous souvient-il de mon premier passage à Tournai avec mon frère lors de ma première émigration? Vous souvient-il, à ce propos, de l'homme métamorphosé en âne, de la fille des oreilles de laquelle sortaient des épis de blé, de la pluie de corbeaux qui mettait le feu partout? Entre parenthèses, livre 9, note de l'auteur. En 1815, nous étions bien nous-mêmes une pluie de corbeaux, mais nous ne mettions le feu nulle part, hélas. Je n'étais plus avec mon malheureux frère. Entre 1792 et 1815, la République et l'Empire avaient passé. Que de révolutions s'étaient aussi accomplies dans ma vie. Le temps m'avait ravagé comme le reste. Et vous, jeune génération du moment, laissez venir 23 années, et vous direz à ma tombe où en sont vos amours et vos illusions d'aujourd'hui. À Tournai étaient arrivés les deux frères Bertin. M. Bertin de Vaux s'en retourna à Paris. L'autre Bertin, Bertin l'aîné, était mon ami. Vous savez par le livre 14e de ses mémoires ce qui m'attachait à lui. De Tournai, nous allâmes à Bruxelles. Là, je ne retrouvais ni le baron de Breteuil, ni Rivarol, ni tous ces jeunes aides de camp devenus morts ou vieux, ce qui est la même chose. Aucune nouvelle du barbier qui m'avait donné asile. Je ne pris point le mousquet, mais la plume. De soldat, j'étais devenu barbouilleur de papier. Je cherchais Louis XVIII, il était à Gand, où l'avaient conduit messieurs de Blacas et de Duras. Leur intention avait été d'abord d'embarquer le roi pour l'Angleterre. Si le roi avait consenti à ce projet, jamais il ne serait remonté sur le trône. Étant entré dans un hôtel garni pour examiner un appartement, j'aperçus le duc de Richelieu, fumant à demi couché sur un sofa, au fond d'une chambre noire. Il me parla des princes de la manière la plus brutale, déclarant qu'ils s'en allaient en Russie et ne voulaient plus entendre parler de ces gens-là. Madame la duchesse de Duras, arrivée à Bruxelles, eut la douleur d'y perdre sa nièce. La capitale du Brabant m'est en horreur. Elle n'a jamais servi que de passage à mes exils. Elle a toujours porté malheur à moi ou à mes amis. Un ordre du roi m'appela à Gand. Les volontaires royaux et la petite armée du duc de Berry avaient été licenciés à Béthune, au milieu de la boue et des accidents d'une débâcle militaire. On s'était fait des adieux touchants. 200 hommes de la maison du roi restèrent et furent cantonnés à Alost. Mes deux neveux, Louis et Christian de Chateaubriand, faisaient partie de ce corps.